Ce matin, je vous propose de faire un pas de côté en essayant de faire mieux connaissance avec un univers qui peut sembler loin du nôtre. Christianisme et franc-maçonnerie sont-ils compatibles? Eh bien, nous verrons cela au regard notamment des valeurs portées par la franc-maçonnerie. Nous nous attacherons aussi à comprendre les raisons de l'ancrage important de la franc-maçonnerie dans notre région avant de venir à la vocation de ce salon, 6e salon maçonnique. C'est à Toulouse ce week-end. Et toutes ces questions, c'est à vous que je vais les poser. Bonjour Gérard Soulier.
Bonjour.
Merci d'être présent avec nous ce matin en direct. Vous êtes secrétaire de l'Institut Toulousain d'études maçonniques et commissaire du salon dont nous allons parler. Évidemment, vous êtes franc-maçon. D'abord, cette question tout de même, est-ce que c'est inédit pour vous de vous exprimer en tant que franc-maçon sur une radio chrétienne ?
Absolument. J'ai eu l'occasion, tant dans ma vie professionnelle que ma vie associative, de faire de nombreuses interviews radio. Mais c'est la première fois que je suis reçu par votre radio.
Eh ben, nous sommes heureux que ce soit ici que cette rencontre puisse avoir lieu. Évidemment, on ne va pas faire mystère des oppositions entre les institutions que nous représentons l'un et l'autre. Hein. Le climat est évidemment frais entre l'Église catholique et la franc-maçonnerie. Pour rappel, s'il le fallait, récemment, le pape François a refusé la candidature d'un ambassadeur du Liban au Saint-Siège au motif qu'il est franc-maçon. Alors aujourd'hui, il n'est plus question d'excommunication dans le droit canon. Lorsqu'on est franc-maçon, il est toutefois précisé que quiconque adhère à une association qui agit contre l'Église doit être puni d'une juste peine, mais quiconque soutient ou dirige une telle association doit être frappé d'interdit. Gérard Soulier, en appartenant à la franc-maçonnerie, est-ce que vous avez le sentiment de comploter contre l'Église ?
Absolument pas. Je n'ai pas le sentiment de comploter contre l'Église, j'ai simplement le sentiment qu'effectivement, je me bats pour des valeurs et des principes, dont l'un des principaux est la liberté absolue de conscience, et par conséquent, effectivement, c'est en dehors de tout dogme que je conduis et que nous conduisons nos analyses, notre vie et nos réflexions.
Alors vous avez parlé de valeurs, évidemment c'est le sens de ma question, c'est aussi de questionner les valeurs dans lesquelles vous croyez. Est-ce que vous pouvez, on peut résumer la franc-maçonnerie si rapidement, je ne sais pas, mais je vous laisse vous y exercer.
Ben oui, c'est très simple, hein, et ce sont les textes des principales obédiences maçonniques, améliorer l'homme et la société. Donc pour nous, effectivement, ce sont des valeurs cardinales qui nous permettent de guider notre vie personnelle, notre action individuelle, mais aussi dans le cadre de notre action collective au sein des obédiences maçonniques.
Ça, c'est l'objectif de la franc-maçonnerie. S'il y en avait un, ça serait celui-là, améliorer l'homme et la société.
Absolument.
Comment ?
Ben déjà, pour améliorer l'homme, il faut faire un travail personnel, hein. C'est un travail d'introspection et de connais-toi toi-même. Et ensuite, de respecter un certain nombre de principes et de valeurs qui sont les valeurs de l'humanité, hein. La solidarité, la fraternité, faire attention qu'effectivement les libertés ne soient pas bafouées, et les valeurs les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité.
Alors je précise à ceux qui nous rejoindraient que vous êtes franc-maçon, que vous êtes bien sur Radio Présence. Si nous avons envisagé cet entretien ce matin, c'est parce que la franc-maçonnerie, au même titre que les représentants des cultes, sont régulièrement auditionnés par nos parlementaires. Il nous a semblé important de savoir effectivement ce en quoi vous croyez, quelles sont vos valeurs. Je crois, Gérard Soulier, que vous croyez à la franc-maçonnerie en un grand architecte de l'univers. Est-ce que cette expression a cours encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle veut dire?
Alors, si vous voulez, le grand architecte de l'univers, en ce qui concerne un certain nombre d'obédiences, dont la mienne, le Grand Orient de France, a été retiré des textes. Mais par contre, la franc-maçonnerie est diverse et il y a effectivement un certain nombre d'obédiences maçonniques qui croient au grand architecte de l'univers.
Sans pour autant que ce soit un dieu.
Absolument.
Alors la franc-maçonnerie à Toulouse et dans la région, je crois, a une place importante par rapport à la population en son ensemble. 2 à 3 fois plus de francs-maçons dans notre région, je crois, que sur le reste de la France, entre 4 et 5 000 initiés en Haute-Garonne. Qu'est-ce qui explique cette proportion aussi importante ?
Écoutez, il y a déjà une tradition historique, hein. Il faut savoir que la franc-maçonnerie est arrivée à Toulouse en 1741. Elle est arrivée en France en 1725. Donc, très peu de temps après, elle se développe sur Toulouse et sa région de façon très active. Ça intéresse énormément de monde, ce nouveau courant philosophique. C'est un Irlandais qui s'établit à Toulouse et qui va effectivement établir la franc-maçonnerie à Toulouse. Et rapidement, les loges maçonniques se développent, et sous l'Ancien Régime, il y avait 7 ou 8 loges maçonniques déjà à Toulouse et quelques-unes dans la région. Et elles étaient peuplées, évidemment, plutôt de bourgeois, mais aussi d'ecclésiastiques. Certaines loges comptaient au bas mot 10% d'ecclésiastiques. Après, des présidents de parlement, de la haute bourgeoisie, de la noblesse également, et puis des petits bourgeois.
Et pourtant, la première condamnation de l'Église date de Clément XII en 1738. Donc déjà, l'Église condamnait l'appartenance à la franc-maçonnerie, mais peut-être que entre la condamnation et les faits, il y a eu un petit peu de temps, c'est ça ?
Il y a eu surtout le fait que cette bulle du pape que vous venez de rappeler n'a pas été enregistrée par le Parlement de Paris sous Louis XV, et que par conséquent, rien n'obligeait effectivement les autorités de l'époque, de l'Ancien Régime, à interdire la franc-maçonnerie, même si le cardinal Fleury, qui était ministre de l'Intérieur à cette époque-là, a un peu ennuyé quelques loges maçonniques à Paris. Mais en réalité, c'était un lieu de sociabilité très important, et qui permettait à des gens de toutes conditions de se rencontrer et de dépasser des clivages qui, dans la société profane, effectivement, mettaient des barrières.
Aujourd'hui encore, à Toulouse et dans la région, lieu de sociabilité, cette expression, elle correspond à votre idée de la franc-maçonnerie ?
Absolument. Vous savez, on a une expression dans notre courant de pensée qui est de dire que effectivement la franc-maçonnerie permet de rassembler ce qui est éparse et de permettre à des gens qui ne se seraient jamais rencontrés de pouvoir se rencontrer à travers effectivement leur rencontre en loge.
Jamais rencontrés, à condition d'appartenir à un certain milieu, d'avoir un certain niveau d'études, non ?
Absolument pas.
Le côté élitiste de la franc-maçonnerie,
vous
le récusez ?
Pas du tout, madame. Pas du tout. Nous recrutons dans tous les milieux. Il y a effectivement peut-être une proportion plus importante de personnes qui ont fait des études, qui ont un certain développement personnel et individuel, mais je peux vous garantir qu'il y a effectivement de toutes les catégories sociales dans les loges maçonniques, quelles que soient les obédiences.
Et toutes les obédiences sont représentées aujourd'hui à Toulouse ?
Un grand nombre sont représentés. Vous savez, en fin de compte, on distingue historiquement deux grands courants. Le courant dit des loges régulières et rattaché à la Grande Loge Unie d'Angleterre. Et puis, toutes les obédiences qui sont libérales et adogmatiques, et en particulier la principale d'entre elles qui est le Grand Orient de France, mais également la Grande Loge, la Grande Loge Féminine de France, le droit humain qui est une obédience mixte de très ancienne, puisqu'elle date de la fin du 19e siècle. Bref, l'ensemble des sensibilités sont représentées sur Toulouse et la grande région toulousaine.
Alors, améliorer l'homme et la société, c'est l'objectif que vous m'avez annoncé comme étant le vôtre à la franc-maçonnerie. Comment est-ce que vous procédez ? Comment est-ce que vous travaillez ensemble ? Quels sont vos liens entre vous ?
Alors, être franc-maçon, c'est participer à des activités régulières. C'est une astreinte, c'est un travail, c'est un véritable engagement. C'est pas uniquement de venir pour dire bonjour, j'ai vu de la lumière et je suis rentré.
C'est pas un réseau obscur.
Non, absolument pas. C'est absolument le contraire de tout ça. Alors, nous sommes discrets. Effectivement, d'abord, il est interdit de dévoiler quiconque. Mais un individu peut très bien lui-même annoncer qu'il est franc-maçon. Ça n'a aucun problème. Et la deuxième chose, c'est que, on en donne exemple avec ce salon. Nous sommes aussi attachés à avoir des activités d'extériorisation, c'est-à-dire de montrer à l'extérieur les buts que nous recherchons, les sujets qui nous intéressent et la façon dont nous les pratiquons.
Vous avez parlé aussi de courants philosophiques, courants de pensée. Est-ce que vous avez des travaux, des sujets d'études, des séances de travail entre vous ?
Absolument. Il y a des sujets d'études. Il y a des questions qui sont mises à l'étude des loges chaque année dans toutes les obédiences. Et puis,
c'est quoi le vôtre en ce moment ?
Écoutez, nous, il y a différents sujets, mais il y en a qui portent effectivement sur les questions du développement durable, par exemple, qui est quand même un sujet profondément d'actualité. Et puis, vous savez, je crois qu'il faut se dire que c'est pas parce que vous avez affaire à des francs-maçons que vous n'avez pas affaire à des gens qui ont une spiritualité. C'est une spiritualité laïque qui est effectivement...
Très ritualisée.
Qui est ritualisé également, mais le rituel concerne de nombreuses sociétés, groupes d'individus. Vous savez, dans les pays où il y avait des Indiens, il y avait effectivement un rituel pour les Indiens de passage. Je crois que tout ça se retrouve. En fin de compte, le fond de l'homme est toujours le même.
Est-ce qu'il y a des domaines alors ou des secteurs d'activité ici dans notre région qui sont particulièrement convoités par les personnes de la franc-maçonnerie que vous représentez ce matin ?
Je pense qu'on ne peut peut pas traiter cette question de cette façon-là. On n'a pas d'ambition d'effectivement essayer de recruter dans tel ou tel milieu. Je crois que le recrutement se fait d'abord par essentiellement par cooptation, mais on regarde la qualité de l'individu avant de savoir quel est son engagement dans la cité.
Il n'y a pas de domaine d'intervention. On entend souvent que les hôpitaux, les CHU sont souvent des lieux recherchés par les francs-maçons.
Non, je crois que c'est une idée inexacte.
Alors, il y en a beaucoup des idées sur la franc-maçonnerie, évidemment. C'est entouré de fantasmes. C'est pour ça que ce matin, on est heureux de vous recevoir, même si je le rappelle, je ne veux pas heurter les oreilles de ceux qui nous écoutent. Évidemment, on le sait, l'Église catholique ne perçoit pas d'un très bon œil la franc-maçonnerie. On l'a rappelé à plusieurs reprises. Pour autant, on a envie de vous connaître, parce que vous êtes, je le rappelle aussi, auditionné au même titre que nos parlementaires. Vous avez donc ce 6e salon maçonnique de Toulouse, c'est le 30 et le 1er décembre, ce week-end. Un salon, pourquoi faire, Gérard Soulier ?
Je vais revenir tout de suite sur le salon, mais je voudrais revenir aussi sur la question que vous venez de soulever concernant nos différences. J'ai retrouvé dans ma bibliothèque un petit fascicule qui date de 1987 et qui était le résultat d'un colloque qui avait eu lieu à Toulouse entre le service Incroyance Foi, et l'Institut d'études et de recherche maçonnique, c'est-à-dire une rencontre qui déjà permettait à des personnes de l'Institut catholique de pouvoir rencontrer des francs-maçons toute une journée sur un colloque concernant les relations de l'Église et la maçonnerie. Vous voyez, c'est assez ancien comme...
Comme quoi, on peut avoir envie de se rencontrer sans forcément être du même avis. Présentez-nous ce salon tout de même, puisque...
Bien sûr. Alors, le salon maçonnique, c'est une opération de vitrine et d'extériorisation. C'est un moment que nous tenons tous les deux ans et ouvert au grand public, entrée libre et gratuite. Ça se passe aux espaces Vanel.
Pourquoi faire un salon ? Se faire connaître.
Alors c'est un salon, à l'origine c'est un salon du livre, mais en réalité nous avons appelé ça salon maçonnique parce que vous verrez que dans notre programme nous n'avons pas uniquement de la vente de livres ou des tables rondes et des conférences, nous avons aussi des moments sur la musique. Par exemple, on va parler de Bernard Aimable Dupuis, qui est un compositeur toulousain peu connu, mais qui a quand même composé énormément de musique au XVIIIe siècle et qui était franc-maçon ici à Toulouse. Et puis nous aurons un moment de musique jazz parce que en fin de compte les origines du jazz sont très proches de la maçonnerie. Et également quelques expositions d'œuvres d'art. Mais l'essentiel de notre salon, c'est des conférences et des tables rondes sur un certain nombre de thèmes.
On va donner peut-être, parce que vous avez effectivement des invités de renom, hein, notamment celui qui va intervenir sur l'intelligence artificielle.
Voilà, nous vous ouvrons le salon le samedi matin avec une conférence plénière d'ouverture à 9h45 sur l'intelligence artificielle, dont le sous-titre est un anti-humanisme. C'est un conférencier qui s'appelle Eric Sadin, professeur de philosophie qui fait essentiellement maintenant des conférences et qui écrit des livres, dont le dernier qui s'appelle effectivement l'intelligence artificielle, l'enjeu du siècle ou un anti-humanisme intégral. Et il aura en face de lui un représentant d'une université toulousaine, chercheur au CNRS, Jean-François Bonnefond, qui a travaillé particulièrement sur le véhicule autonome. Et nous pensons que ce sont des sujets de ce type qui nous intéressent parce que effectivement tout ce qui porte sur l'humanisme nous intéresse.
Et qui vous permettent d'attirer du monde peut-être aussi ?
Bah écoutez, oui, attirer du monde, c'est l'objet quand on fait un salon, c'est de faire venir du monde, c'est qu'on a des choses à leur dire, à leur présenter et à partager avec eux.
Et quid du secret alors ?
Le mot secret n'est pas approprié, je vous l'ai dit, c'est le mot discret qui nous convient parfaitement. La discrétion, elle est liée à un phénomène très simple. Vous savez que pendant la période de Vichy, la franc-maçonnerie était particulièrement maltraitée, avec notamment beaucoup de victimes, et en particulier ici à Toulouse, on a Forain François Verdier.
Et bien sûr, on en a parlé, ouais.
Voilà, hein, qui est quand même un symbole fort de notre obédience.
Un grand merci à vous, Gérard Soulier, d'être venu, d'avoir franchi le pas de cette maison, évidemment, d'inspiration chrétienne. Vous êtes venu nous parler du 6e salon maçonnique de Toulouse. Il a lieu, on l'a dit, ce week-end, le 30 et le 1er décembre. Merci beaucoup de nous avoir aussi montré quelles sont les valeurs qui vous animent à la franc-maçonnerie. Merci à vous.
Merci. Vous pouvez retrouver le programme sur le web Salon Maçonnique Toulouse.